Bonjour, donc je suis Christophe Raison, formateur et auteur en économie et management pour Comptalia. Et aujourd'hui, je souhaiterais vous faire part de mes impressions, de mon ressenti sur cette épreuve de management UE7 en DCG. Alors, si on se réfère aux sessions précédentes, on va se dire une chose ensemble assez rapidement, c'est que il n'y a rien d'original, hein, au niveau de la forme, en tout cas par rapport à ce qui nous a été proposé. C'est dans la droite ligne, hein, des attentes des membres du jury, à savoir donc une étude de cas sur 12 points, hein, donc, ce qui est absolument normal, et puis un développement structuré sur 8 points. Bon, quand on regarde le format, hein, de manière agrégée de ces deux dossiers, on voit notamment que pour l'étude de cas, on a des questions qui sont relativement indépendantes, donc ce qui pouvait vous aider, je pense, hein. C'est-à-dire, en gros, quelqu'un qui était plus à l'aise sur la stratégie pouvait s'y retrouver sur la question 1 et 3, puisqu'on vous demandait de redéfinir la notion de stratégie générique, mais aussi de bien préciser les modalités de croissance. Et vous aviez aussi d'autres questions qui portaient finalement sur d'autres modules du cours de management sur Comptalia, sur le module qui est lié à la décision, sur le module théorie des organisations, mais aussi sur un autre module qui traite notamment des comportements humains dans les organisations. Donc au final, quand on regarde cette étude de cas, on voit qu'ils ont été piochés des questions dans quasiment tous les modules qui ont été constitués sur la plateforme Comptalia. Donc tant mieux pour vous, hein. Alors après, on va rentrer dans le détail sur qu'est-ce qu'on pouvait attendre de vous sur le fond et sur la forme. Donc ça, c'était sur la partie étude de cas. Sur la partie développement structuré, là encore, on a un sujet, on y reviendra, sans annexe. Hein, donc ça, c'est quelque chose, c'est une régularité depuis quelques années. Alors comme je parle d'annexe, vous avez dû voir naturellement, et peut-être vous-même avez-vous, peut-être que vous avez levé la main le jour J, c'est qu'il y a une erreur, hein, dans le sujet. Lorsque on vous dit qu'à l'aide de vos connaissances, tant théoriques que factuelles, des annexes 1 à 8, répondez aux questions suivantes. Or, il n'y avait que 7 annexes. Donc cette annexe, c'était un petit peu embêtant, ça pouvait créer un petit climat anxiogène. J'espère que ça n'a pas apporté atteinte à votre niveau de concentration. Alors, permettez-moi de revenir progressivement sur les deux dossiers et de vous expliquer mon ressenti sur les attentes, tant sur la forme que sur le fond. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, 6 questions plus ou moins indépendantes pour l'étude de cas, et j'ai trouvé que ces questions, finalement, mélangeaient assez finement deux interrogations. Une première interrogation qui était de dire, voilà, ce qu'on attend de vous, hein, les candidats, c'est dans un premier temps d'être dans des logiques de définition, d'explication des concepts, et dans un second temps de voir si vous étiez capable de corréler finalement une partie très courte, très théorique, à une partie beaucoup plus empirique qui est l'étude de cas. Je prends quelques exemples. Commençons d'ailleurs, pourquoi pas, par la question 1, où on vous dit, après avoir défini la notion de stratégie générique au sens de porteur, virgule, donc là, il faut pas du tout s'embêter, c'est votre cours que vous avez appris, et donc il faut relater très clairement cette définition de ce qu'est la stratégie générique, mais dans un contexte plus large. C'est de dire, en gros, il y a la matrice de porteur. La stratégie générique, c'est la stratégie business qui s'impose au DAS, au domaine d'activité stratégique, et d'évoquer la typologie évoquée par Michael Porter. Donc ça prend un petit peu de temps quand même. Et puis dans un second temps, à la lumière des annexes, et je dirais plutôt à la lumière des éléments issus des annexes que vous avez trouvés pertinents, de justifier votre choix. Hein, et de dire, eh bien, me semble-t-il, la stratégie qui est menée par l'entreprise Cellnat est plus une stratégie de différenciation. Mais il fallait naturellement pas simplement le dire ou l'affirmer, il fallait le justifier au regard de quelques éléments, et ces éléments figuraient bien dans les annexes. Bon, la deuxième question, idem, on attendait de vous de nous expliquer. Là, c'était un petit peu plus implicite, je vous l'accorde, mais nous expliquer c'est quoi la qualité, c'est quoi une démarche qualité, jusqu'à peut-être même nous évoquer la démarche de certification de cette qualité, et de dire comment Cellnat a pu réaliser cette démarche qualité, et surtout, comment pouvez-vous la corréler à la stratégie générique choisie à la question 1, qui était clairement ici la stratégie de différenciation. D'accord ? Troisième question, là encore, la question commence de la manière suivante. Définissez la modalité de croissance choisie par Ebro Foods lors du rachat de Cellnat. Là, ce qu'on attend de l'étudiant, c'est de réévoquer initialement, en début de réponse à cette question 3, les différentes modalités de croissance. Et là, attention, hein, il ne faut pas confondre modalité de croissance et les stratégies associées. Ici, l'idée, c'était de réévoquer auprès du correcteur qu'il y a une croissance interne, qu'il y a une croissance externe et qu'il y a aussi une croissance conjointe. D'accord ? Donc là, il fallait choisir la bonne modalité de croissance et de la justifier. Mais ici, on vous disait tant, autrement dit, c'est quand on dit justifier ce choix, tant pour Ebro Foods que pour celle-là, c'est de dire quels sont les avantages recherchés respectivement par ces deux entreprises. D'accord ? Donc, il fallait, dans votre copie, bien dissocier trois parties en matière de réponse. Un premier bloc, rappeler c'est quoi ces modèles de croissance. D'accord ? Ensuite, d'expliquer naturellement laquelle a été choisie par Ebro Foods. Bon, c'était assez facile à voir. Et ensuite, un autre bloc pour dire voilà l'intérêt pour Ebro Foods et voilà l'intérêt pour Cellnat. Quatrième question, on est dans le module décision. On vous dit proposer une typologie des décisions. Donc là, on vous indique pas l'auteur qu'il va falloir mobiliser. Alors là, ça pouvait être assez pléthorique. Généralement, quand même, et ça peut être une solution de facilité, mais en même temps, c'est stratégique, ça tombe bien, on est dans une épreuve de management, on va choisir la typologie d'Ensof. Donc, c'est ce que j'ai choisi pour le corriger. Vous savez, quand Ensof va dissocier les décisions à niveau stratégique, tactique ou opérationnel. D'accord ? Donc, là, c'est une question de cours. On vous demande de proposer une typologie des décisions prises dans les entreprises. On ne dit pas dans l'entreprise Cellnat ou dans l'entreprise Ebro Foods. Et une fois que vous avez mis en perspective cet aspect théorique que j'appellerais l'aspect cours finalement, ça va être de dire, bah alors au final, par rapport à ce que je viens de dire, les critères que j'ai choisis, à quoi ça correspond ? Bon, très clairement, pour Ebro Foods, c'est une décision qui est stratégique. Mais rien ne vous empêchait d'utiliser d'autres typologies en matière de prise de décision, naturellement. Hein. Donc, c'est pas parce que vous n'aurez pas pris Ensof que automatiquement le jury sera mécontent et vous comptera peut-être que la moitié des points. Non, soyez rassurés. À partir du moment où vous utilisez une typologie, il y en a plusieurs dans le cours, ce sera naturellement validé à partir du moment où vous êtes capable de justifier. Mais quand même, me semble-t-il, il y avait un facteur de contingence dans le choix de cette typologie, c'est que dans le texte, il y a quand même pas mal d'éléments qui vous permettaient de vous dire, écoutez, le bon chemin à prendre, c'est quoi ? C'est la typologie d'Ensof, parce qu'on sait qui a pris la décision, c'est au niveau du top management, on voit que c'est une décision qui engage l'entreprise sur le long terme, qui est quasiment irréversible. Donc quand on dit ça, on se dit que là, bon, la typologie d'Ensof est sûrement la meilleure adéquation possible. La cinquième question, là encore, vous voyez, à nouveau, c'est rappeler en quoi consiste la gouvernance. Là, très clairement, vous définissez la gouvernance. Et ensuite, au travers des annexes, c'est de montrer comment elle va évoluer. Donc en fait, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on attendait de vous ? De définir la gouvernance. Vous pouviez même déjà, en termes de travail préparatoire, dissocier, vous savez, vous l'avez vu dans le cours, la dissociation entre gouvernance actionnariale et managériale, et de dire quel a été le glissement, finalement, que l'on a pu percevoir au travers des annexes. D'accord ? Donc là, on a sûrement une gouvernance actionnariale qui est en train de se mettre en place. Ça veut dire que derrière, il y a une dissociation entre la personne qui est la propriété, en quelque sorte, hein, le propriétaire qui est Ebro Foods, et le manager qui est Jérôme Sell, et de voir comment, donc c'est un nouveau mode de gouvernance qui est en train de se mettre en place au niveau de Cellnat. Idem, et on aura terminé avec l'étude de cas, la question 6, c'était toujours la même chose. La première partie de la question, c'est qu'on vous demande, c'est une question de cours en fait pour moi. C'est une question de cours, c'est définir ce pouvoir. Ok ? Alors là encore, quand dans la deuxième partie de la question, on vous dit de mettre en évidence les sources de pouvoir, Là, il fallait assez rapidement se dire, bon, c'est un peu comme la question précédente sur les décisions, il y a des typologies. Et là, il fallait citer, pourquoi pas, Crozier, notamment, hein, sur les sources de pouvoir, le pouvoir de l'expertise, donc une certaine compétence. Mais on pense aussi souvent à Max Weber. Vous voyez ? Donc, cette étude de cas, au final, vous en rendez compte, il y a à la fois des côtés très empiriques, c'est, on va mobiliser vos compétences, aller exploiter des éléments dans les documents, mais on va aussi mobiliser vos connaissances théoriques. Et quand on regarde au final cette étude de cas, on voit qu'ils se sont appuyés quasiment sur tout le référentiel à part le module dédié à la communication. Voici pour le dossier 1. Mon ressenti pour le dossier 2. Travail en groupe et motivation au travail. Alors, là, il peut y avoir plusieurs problématiques possibles. Donc, ne vous fiez pas, s'il vous plaît, non plus à la problématique que j'ai pu mettre en évidence dans le développement structuré, parce que il y aura des problématiques de nature différente. À partir du moment où vous êtes capable de valider votre problématique avec un plan, considérez que vous avez fait un bon travail. Donc, je voulais vraiment vous rassurer par rapport à ça. Donc, on peut avoir tout un ensemble de plans possibles, et tout plan pertinent qui sera proposé de votre part sera de toute façon valorisé par les membres du jury, je peux vous le confirmer, parce que je suis moi-même correcteur. Par contre, il y a un écueil majeur qu'il fallait éviter, et je vous le donne tout de suite, c'est que il y a ce fameux ET au milieu du sujet qui est absolument crucial. C'est-à-dire que face à un tel type de sujet, ce qu'il fallait faire dans un premier temps, c'était de bien définir les termes du sujet. Donc ça, c'est clairement évoqué dans le cours. Hein. Je refais pas le cours ici, naturellement. Mais ce qu'il faut faire dans un second temps, c'est le travail le plus intéressant, le plus compliqué, c'est de travailler sur la formulation du sujet. Et le ET, c'est ce qu'on appelle une clé majeure hein, dans un sujet. Ça veut dire que tout plan qui dissocierait les deux termes du sujet, autrement dit, en gros, première partie, je vous parle du travail en groupe, et deuxième partie, je vous parle de la motivation au travail, là, ça va devenir compliqué. Très clairement, pour moi, c'est un travail qui n'est pas pertinent. Ce qu'on vous demande, et c'est ça qui a été, je pense, le plus délicat sur le développement structuré, pour moi, c'est pas tant les connaissances. Parce que un étudiant hein, qui a pris son cours, ce que vous avez fait, vous voyez assez immédiatement, vous dites, allez, motivation au travail, je vais devoir mobiliser les théories de la motivation. Là, c'est pléthorique le nombre d'auteurs, c'est pléthorique. Le travail en groupe, je vais penser dynamique de groupe, etc. Et vous avez un cours qui est très bien détaillé sur le sujet. Par contre, ma difficulté, clairement, ça va être de relier ces deux grands concepts. D'accord ? Donc, ce qu'on va attendre de vous, c'est d'être une capacité à argumenter en croisant les deux termes du sujet. Donc, c'est là que je pense que va se faire la différence sur votre capacité à croiser les deux mots-clés du sujet. Pourquoi ? Parce qu'une présentation des théories de la motivation sans lien avec le travail en groupe pourrait très bien être considérée comme hors sujet. Alors, sur les théories qu'il fallait mobiliser, bon, il y en avait beaucoup, vous vous en doutez, il y en avait même énormément. Donc, on pense à Maslow, on pense à Herzberg, on va penser à Vroom, etc., etc. Et surtout, tout ce qui va toucher à la dynamique de groupe, il fallait naturellement évoquer en premier lieu Kurt Lewin. Hein, ça me paraissait absolument évident. Mais là encore, l'écueil, hein, c'était pas de faire un discours catalogue sur toutes les théories de la motivation. Et là encore, je ne vais pas refaire le cours. Vous voyez ? Et de se dire, ok, très bien, si c'est une question de cours sur les théories de la motivation, vous remplissez le cahier des charges. Non, ce qu'on vous demande, c'est de relier les deux. Donc, je pense que c'était là la difficulté de ce sujet. Et sur le fond, pour moi, il n'y avait aucune difficulté sur la forme. Autrement dit, votre capacité à créer deux parties et d'avoir de cesse en tête de corréler ces deux concepts clés qui s'appelle le travail en groupe d'un côté et la motivation au travail de l'autre, je peux comprendre que c'était délicat. Mais je pense que vous aviez quand même suffisamment le temps. Hein. Autant les années précédentes, le sujet était beaucoup plus vaste que cela. Cette année, ils l'ont quand même recentré sur, on va dire, un module pour moi qui est les comportements humains dans les organisations, et vous avez tout dans ce module, vraiment tout pour y arriver. Donc voilà quels sont mes ressentis. Donc j'espère vous avoir rassuré. Donc voilà, donc au final, finalement, beaucoup de questions de cours dans l'étude de cas, finalement, 50% pour moi, 50 autres pourcents, c'est votre capacité à appliquer cela au niveau de l'étude de cas, et puis peut-être, et même sûrement, la difficulté qui était de trouver un plan qui soit cohérent pour le développement structuré. Donc voilà quelles étaient en tout cas mes impressions, et je vous dis donc à bientôt. Au revoir.